Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du 1er août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Au Zimbabwe, au moins 3 personnes ont été tuées dans des affrontements entre forces de sécurité et manifestants de l'opposition qui déclarent leur candidat victorieux de la présidentielle. Au Mali, 2/3 des candidats à la présidentielle de dimanche affirment qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats des élections. En Centrafrique, l'assassinat de 3 journalistes russes continue de susciter des interrogations.
Les 3 n'ont pas informé le ministère de la Communication de leur déplacement à l'intérieur du pays pour faire un reportage.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Et ici aux États-Unis, le président Donald Trump demande à son ministre de la Justice de mettre fin à l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans la présidentielle de 2016. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Scène de chaos aujourd'hui dans Harare, alors que le Zimbabwe attend toujours les résultats de la présidentielle. La police a tiré à balles réelles sur des manifestants de l'opposition qui entendaient marcher sur le siège de la commission électorale. On déplore 3 morts au moins. Nicolas Pinault nous fait le point.
Oui, c'est une journée de tension qui se termine dans le sang. Ce soir, l'armée est déployée dans Harare et le calme est revenu alors que les résultats de la présidentielle ont été reportés à demain par la commission électorale. Le siège de la ZEC, c'était l'objectif des partisans du principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le Changement Démocratique. Après l'annonce de la victoire à la majorité absolue de la ZANU-PF aux législatives, les partisans de l'opposant Nelson Chamisa dénoncent des fraudes et craignent que la victoire de leur candidat à la présidentielle, qu'ils considèrent acquise, ne leur soit volée. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé en novembre à Robert Mugabe par un coup de force, a lancé un appel au calme sur Twitter. Et plus tard dans la soirée, le président zimbabwéen a déclaré dans un communiqué tenir l'opposition pour responsable de la manifestation meurtrière. « Nous tenons le MDC et sa direction pour responsable de perturber la paix nationale », a déclaré M. Mnangagwa. Les observateurs de l'Union européenne ont dénoncé l'inégalité des chances entre les candidats aux élections générales et des intimidations des électeurs, s'inquiétant aussi de la lenteur dans la proclamation des résultats. Toutefois, les observateurs européens soulignent que le climat politique s'est amélioré au Zimbabwe.
Nicolas Pinault, et puis les États-Unis appellent l'armée zimbabwéenne à faire preuve de retenue après la mort par balle d'une personne, de 3 personnes maintenant, au cours des manifestations de l'opposition. Et dans un tweet, l'ambassade des États-Unis à Harare se dit profondément inquiète des derniers développements dans le pays. Jean-Pierre Bemba Gombe est de retour à Kinshasa 11 ans après. Le président du mouvement de libération du Congo et candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre prochain a été accueilli par des milliers de militants de son parti à l'aéroport international de Ndjili, puis au siège de son parti dans la commune de Kasavubu. Cependant, son parti politique et la police sont divisés quant à l'endroit où il doit passer sa première nuit. Les détails avec Thierry Kambouni de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'avion de Jean-Pierre Bemba s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili aux environs de 9h20 heure de Kinshasa. Mais le président du mouvement de libération du Congo, accueilli au pied de l'avion par sa famille et les cadres de son parti, a mis près d'une heure avant de sortir de l'aéroport où l'attendaient de nombreux militants et militantes de son parti. Juste le temps pour lui de les saluer, l'ancien vice-président de la RDC a été escorté par la police, provoquant la colère des militants et membres de son parti qui voulaient que leur leader marche à pied avec eux jusqu'au siège du MLC. La police a dû user des gaz lacrymogènes pour les disperser. Arriva ensuite l'étape du boulevard Triomphal où militants et sympathisants, encore plus nombreux, attendaient leur leader au siège provincial du MLC. Après quelques minutes de communion avec eux de la fenêtre de son bureau, Jean-Pierre Bemba a quitté le siège de son parti pour la résidence familiale, selon la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, pour un hôtel de la place, selon le chef de la police ville de Kinshasa. On ne sait donc pas encore où le sénateur Bemba Gombo passera sa toute première nuit kinoise, 11 ans après son départ de la capitale de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Par ailleurs, les autorités congolaises ont confirmé une nouvelle épidémie d'Ebola, cette fois dans l'est du pays. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a expliqué sur Twitter que le virus Ebola est confirmé dans l'agglomération de Mandinga. Selon le ministre de la Santé, la nouvelle épidémie menace la région de Beni avec 26 cas de fièvre hémorragique, dont 20 décès. Au Mali, 18 candidats sur les 24 contestent le scrutin du 29 juillet dernier, alors que les résultats officiels ne sont pas encore publiés. Ils dénoncent des élections marquées, selon eux, par la corruption, les achats du vote, le bourrage d'urne et des violations du code électoral. Ils étaient devant la presse ce matin. Le point avec Kassim Traoré, le correspondant de VOA Afrique à Bamako.
C'est dans une salle de conférence de la maison de la presse, pleine à craquer, que les 18 candidats dénoncent les irrégularités du scrutin et annoncent qu'ils rejettent les résultats du premier tour, remettent en cause l'intégrité de la Cour constitutionnelle. Maître Mohamed Ali Bachili, porte-parole des candidats.
Une Cour constitutionnelle se doit de garder, de préserver sa neutralité, sa non-partialité. Alors une Cour qui empêche les plaideurs de recourir aux moyens que la loi leur donne. On doit la récuser, oui ou non? Donc, c'est pas des griefs fondés sur des sentiments, mais sur la réalité juridique de la position de la Cour.
Certes, les 18 candidats ont signé la déclaration commune, mais certains n'ont pas la même compréhension du texte. Par exemple, Alou Boubacar Diallo, candidat, ne rejette pas l'ensemble des résultats, mais il conteste la manière de travail de la commission de centralisation. Pour lui, le décompte des voix bureau de vote par bureau de vote serait la meilleure solution. Pour le moment, la capitale malienne attend les résultats. Résultats provisoires qui doivent être proclamés par l'administration territoriale au plus tard le vendredi prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
On en sait un peu plus sur les trois journalistes russes tués en Centrafrique. Ils enquêtaient sur la présence de la société paramilitaire russe Wagner dans ce pays où la Russie a déployé des instructeurs militaires. C'est ce qu'a indiqué en tout cas ce mercredi l'organisme avec lequel ils collaborent. Il s'agit du Centre de gestion des investigations, un projet lancé par l'ex-oligarque et opposant en exil Mikhail Khodorkovsky. Selon le gouvernement centrafricain, les trois journalistes russes ont été abattus par des ravisseurs anturbanais. Nous y reviendrons en partie magazine. Et puis au Sénégal, 40 personnes sont mortes noyées depuis 2 mois à Dakar, dans des plages interdites à la baignade, mais qui connaissent une fréquentation accrue en cette période de chaleur estivale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Commission européenne a décidé d'allouer des dizaines de millions d'euros à l'Espagne pour l'aider à gérer le flux continu de migrants arrivés clandestinement sur ses côtes depuis le Maroc. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo.
Mina Andreeva, porte-parole adjointe de la Commission européenne, a affirmé que l'Union travaille à libérer les fonds, ajoutant toutefois qu'elle n'a aucun montant à communiquer. Dimanche dernier, le gouvernement espagnol a demandé à bénéficier d'une allocation de 30 millions d'euros du Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration et du Fonds pour la sécurité. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a assuré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, de son soutien et de la priorité accordée à ses demandes. Monsieur Juncker a aussi demandé au commissaire aux migrations de se rendre dans les prochains jours en Espagne. La Grèce, elle, a bénéficié d'un financement de 31,1 millions d'euros pour la gestion des migrants à sa frontière avec la Turquie. Plus de 20 000 migrants sont arrivés en Espagne depuis janvier en provenance du Maroc pour la plupart. L'Union européenne dit avoir aussi prévu environ 55 millions d'euros pour renforcer les capacités d'intervention des gardes-côtes marocains et tunisiens. Elle s'est refusée à nommer les États membres qui n'ont pas versé l'intégralité de l'argent promis pour le Fonds pour l'Afrique. Toutefois, selon un état des versements en date du 23 juillet, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas n'ont pas respecté leur engagement.
Un navire commercial tunisien ayant secouru 40 migrants, dont 2 femmes enceintes, a accosté ce mercredi au port de Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Après plus de 2 semaines d'attente, les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, du Bangladesh et d'Égypte ont été accueillis par les autorités à leur arrivée. Les États-Unis prennent des sanctions contre les ministres turcs de l'Intérieur et de la Justice qu'ils accusent d'avoir joué un rôle majeur dans l'arrestation et la détention d'un pasteur américain en Turquie. Andrew Brunson est accusé par les autorités turques d'activités terroristes et d'espionnage et a été placé mercredi dernier en résidence surveillée après un an et demi de détention. Le secrétaire d'État Mike Pompeo va rencontrer son homologue turc après ces sanctions. Le président américain Donald Trump demande à son ministre de la Justice, Jeff Sessions, de mettre fin à l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Selon lui, l'enquête est minée par les conflits d'intérêts du procureur spécial Robert Mueller et manipulée par ses adversaires politiques. Par conséquent, Donald Trump demande dans un tweet à Jeff Sessions de mettre fin à ce qu'il appelle une chasse aux sorcières truquées avant qu'elle ne salisse un peu plus notre pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manelakiza.
Le FMI a accordé au Tchad 49 millions de dollars pour financer les réformes économiques. C'est dans le cadre de l'accord de 2017 d'un financement de plus de 312 millions de dollars qui vise à rétablir la stabilité macroéconomique et à développer une croissance économique robuste et inclusive. Le FMI a encouragé N'Djamena à accentuer les réformes pour alléger le fardeau de la dette. L'Afrique du Sud veut accélérer les expropriations sans compensation de terres agricoles. Cyril Ramaphosa envisage à modifier la constitution pour redistribuer des terres arables en faveur de la majorité noire et pauvre du pays. Son parti, l'ANC, va introduire une proposition d'amendement à la constitution qui décrit explicitement les conditions d'expropriation des terres sans dédommagement. Le président Ramaphosa pense promouvoir la réparation, faire progresser le développement économique et accroître la production agricole et la sécurité alimentaire. Les fermiers blancs détiennent toujours une grande partie des terres les plus productives d'Afrique du Sud et contrôlent 73% des terres arables. Le président américain Donald Trump envisage désormais une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés contre 10% évoqués jusque-là. Washington accuse Pékin de pratiques déloyales dans leur bras de fer commercial. L'administration Trump a annoncé le 10 juillet une nouvelle liste de produits chinois visés.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le début des épreuves des championnats d'Afrique d'athlétisme a été reporté.
Oui, les épreuves étaient prévues entre aujourd'hui et dimanche au Nigeria, mais plusieurs dizaines de partisans ont eu du mal à rejoindre la capitale de l'État du Delta. Le manque de vol des compagnies aériennes expliquerait le retard accusé par les délégations. La Confédération africaine d'athlétisme a alors été contrainte de chambouler son programme. Toutes les compétitions prévues dans la matinée ont été annulées. Les épreuves des 100 mètres hommes et dames ont été décalées jusque dans la soirée, de même que la finale des 10 000 mètres hommes.
En football, les joueurs du Zamalek mis à l'amende après un match nul.
Le président du Zamalek, Mortada Mansour, a fait fort dès la première journée de la nouvelle saison en Égypte. Mécontent que son club débute par un match nul face à Petrojet 0-0, Mansour a infligé une amende de 100 000 livres égyptiennes, environ 4 800 euros, à ses joueurs. Il dit justifier cette amende par les occasions faciles qui ont été manquées.
Lopetegui a perdu son premier match à la tête du Real.
Le nouvel entraîneur du Real Madrid a démarré son mandat par une défaite en amical 2-1 hier contre Manchester United, qui finit sur une bonne note, une tournée nord-américaine jusqu'ici décevante. Le Real, en pleine recomposition depuis le départ de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo, ne pouvait pas compter sur tous ses internationaux. Gareth Bale et Karim Benzema étaient en revanche bien là et le Français a réduit la marque juste avant la pause, après les deux buts inscrits par Alexis Sanchez à la 18e et Ander Herrera à la 27e pour les Red Devils, privés de 12 cas dont Paul Pogba et Romelu Lukaku. Le Real entamera la Liga le 19 août face à Retafe.
Lucas Digne a signé pour 5 ans à Everton.
Et oui, le défenseur international français a signé pour un montant estimé à 21 millions d'euros. Digne, sélectionné à 21 reprises et qui était réserviste pour le Mondial 2018, avait rejoint Barcelone en 2016 après avoir porté successivement les maillots de Lille, du Paris Saint-Germain et de l'AS Rome. Il ne s'est jamais imposé comme titulaire à part entière dans l'équipe catalane où il n'a disputé que 29 matchs de championnat en deux saisons.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. En Centrafrique, trois journalistes russes ont été tués dans la nuit de lundi à mardi près de Sibout, dans le centre du pays, par un présumé groupe armé non identifié. Leur conducteur a pu s'échapper avec le véhicule criblé de balles. En attendant les résultats de l'enquête, Félix Yepassi Zembrou a joint Joseph Bindoumbi. Il est le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Il revient sur les circonstances de ces tueries.
Quatre personnes sont parties de Bangui l'après-midi, le soir, pour se rendre dans la direction de Dekwa et Casabadoro. Et donc, dans le voyage, il y avait un chauffeur de nationalité centrafricaine et trois expatriés. Au cours du voyage, ils sont arrivés à Sibut, 186 km. Ils ont été stoppés par les contrôles des forces armées centrafricaines qui leur ont demandé de ne pas continuer de nuit, la zone étant assez dangereuse. Ils ont suffisamment insisté pour poursuivre leur route. Les forces centrafricaines les ont laissé donc continuer. Mais avant d'arriver à Dekwa, ils sont tombés sur une embuscade tard la nuit et il se trouve que les trois expatriés ont été tués. Et leur conducteur, ayant vu qu'on s'acharnait sur les autres adultes pour avoir la vie sauve, démarrer le véhicule. Et ce véhicule était criblé de balles, mais il s'en est tiré.
Vous dites expatrié, donc pour l'heure, on ne connaît pas l'identité exacte de ces trois hommes.
Ce que je peux vous dire, c'est que la Russie n'a pas déclaré avoir perdu trois personnes. Et les informations que nous avons, la Russie dit qu'elle n'a pas des hommes dans l'endroit où les faits se sont passés et qu'elle n'a perdu personne. La seconde chose, c'est que pour ce voyage, ils avaient plutôt une autorisation de presse signée par la MINUSCA. Donc les intéressés ne se sont même pas présentés auprès du contingent de Russie, ni à l'ambassade ou la représentation de Russie qui se trouve à Bangui. Les trois n'ont pas informé le ministère de la Communication de leur déplacement à l'intérieur du pays pour faire un reportage.
Dit-on, M. le Président, que ces trois hommes devraient enquêter sur la présence des militaires russes en Centrafrique. Est-ce votre avis?
Est-ce que pour enquêter sur la présence russe en République centrafricaine, on a besoin de faire une mission de nuit? Ce qu'on sait, c'est que le Conseil de sécurité a donné l'autorisation que la Russie donne des armes à la République centrafricaine officiellement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'autorisation d'instruire des forces armées centrafricaines. Ils ont déjà formé deux bataillons. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont basés à Bérengo publiquement. Ils circulent des jours et nous ne voyons pas comment des personnes qui auraient eu la nationalité russe seraient venues encore pour surveiller une mission russe à l'intérieur du pays. Moi, je pense que l'enquête peut-être le révélera, mais ce n'est pas bien.
C'était Joseph Bindoumbi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Jacques Aristide avec vous, c'est un Washington Forum spécial Mali que VOA Afrique vous propose ce jeudi à partir du studio de notre station partenaire Africable Télévision à Bamako. Sur place, les invités pour faire le point sur l'élection présidentielle. Alors que les Maliens attendent toujours les résultats ce mercredi, il s'agit d'un scrutin qualifié de crucial. Pensez-vous que les Maliens accepteront l'issue, quelle qu'elle soit? D'après vous, quels sont les grands chantiers du prochain président, notamment sur les plans de la sécurité, de l'emploi et de la relance économique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En République du Congo, la Commission nationale de lutte contre la corruption a indexé hier mardi, lors de la publication de son rapport, le ministre des Hydrocarbures dans le détournement des fonds destinés à la construction du siège de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole. Le président de cette commission, Lamir Nguele, a appelé la justice à ouvrir des poursuites judiciaires à ce sujet. C'est un reportage à Brazzaville de notre correspondant Arsène Séverin.
La commission de lutte contre la corruption que dirige un ancien ministre n'est pas allée par quatre chemins pour dénoncer le détournement de quelques 700 millions de francs CFA destinés à la construction à Brazzaville du siège de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole. Et l'actuel ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister-Tikaya, a été épinglé. Le président de la commission nationale de lutte contre la corruption, Lamine Nguele.
Le ministre a été le donneur d'ordre. Cela veut dire que le ministre est coupable au même titre que le directeur de cabinet, au même titre que le conseiller financier. Maintenant, ces gens-là, ils sont pas jugés. Notre rôle, c'est pas de juger. Nous préparons le travail en amont, nous transmettons à monsieur le procureur de la République, nous sommes dessaisis du dossier. Là commence le travail de la justice. Des fonds de la CREF, des fonds réservés au paiement des pensions des fonctionnaires. Le montant s'élève à environ 9 milliards. Nous avons bouclé ce dossier, il est chez le procureur de la République.
Mais depuis que la commission publique ses rapports, le parquet de Brazzaville n'a pas encore ouvertement lancé de poursuites judiciaires. Roch Eloge Nzobo, coordonnateur du secte des droits de l'homme et le développement.
Le procureur a l'obligation d'ouvrir une information judiciaire. S'il ne le fait pas, évidemment, ça voudra dire que cette commission, comme toutes les autres commissions, comme celle des droits de l'homme par exemple, ne sert à rien, juste pour la forme.
Pour l'analyste économique Augustin Benazo, la corruption est endémique au Congo. Elle touche tous les secteurs de la vie nationale et la justice devrait sévir.
L'effectivité de la dépense au Congo n'est que de 30%. Voilà, c'est un problème. Voilà. Donc ça montre qu'il y a des faiblesses. Ça a un impact sur l'évolution des politiques publiques au niveau de notre pays. Et donc nous pensons que la commission a travaillé. C'est bien. Nous les félicitons, les remercions. Mais c'est pas suffisant.
Au Parti congolais du travail, le parti présidentiel, la préoccupation sur la corruption est palpable, mais aucune action n'est engagée. Serge-Michel Ozoku, le porte-parole du PCT, dit qu'il n'y a pas de preuves pour s'attaquer aux membres de son parti.
Nous avons fait des déclarations qui sont peut-être des déclarations, mais qui sont des professions de foi où nous avons dit tous ceux qui sont coupables, eh bien, ils devront répondre de leurs actes, mais il y a la justice qui est là pour connaître de ces faits et dire le droit.
En négociation avec le Congo, le FMI avait clairement appelé les autorités à donner des signaux forts dans la lutte contre la corruption et la pratique de la bonne gouvernance. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le cinquième sommet des YALI, Young African Leadership Initiative, s'achève ce jeudi à Washington. Ce programme lancé en 2010 par l'ancien président Barack Obama a pour but de détecter les jeunes talents du continent et de les aider à se perfectionner, chacun dans son domaine. Eki Abadou a rencontré hier l'une des participantes, Inès Kwasi, qui a créé Terre à Terre Bénin pour alerter sur les problèmes écologiques au Bénin et dans le reste du monde. On l'écoute.
Terre à Terre Bénin était un besoin dans ma communauté parce que je viens d'un pays où les motos sont responsables de 89% des 83 tonnes de monoxyde de carbone émis par jour dans la principale ville, la capitale économique, Cotonou. Je viens d'un pays où les femmes n'ont pas un accès équitable aux terres, les populations n'ont pas toujours de l'eau potable. Je viens d'un pays où, malheureusement, beaucoup de paysans pensent que le changement climatique est juste un mystère, que c'est parfois pour des raisons spirituelles. Et ce qui a été ma plus grande motivation pour créer Terre à Terre Bénin il y a un an maintenant, ça a été un drame. Au cours du premier trimestre de 2017, j'ai perdu deux de mes voisines, deux braves dames, belles, intelligentes, qui avaient un emploi stable, qui avaient des rêves et surtout des enfants de la famille. Elles sont décédées du cancer du sein et je me suis sentie vraiment comme désarmée. Et puis, je me suis dit, non, tu dois te reprendre et tu dois surtout faire quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, a été terre à terre Bénin. Parce que j'avais 13 années d'expérience dans les médias, un master en environnement, il fallait faire quelque chose. Terre à terre Bénin, la première start-up en communication environnementale, est donc née pour mieux informer ma communauté. Ma communauté ne sait pas qu'il n'est pas bon, par exemple, de consommer les soupes de poisson frais. Parce que chez nous, moi, je viens, par exemple, de la région de Grand Popo, où nous adorons, ce sont des pêcheurs qui sont par là-bas. Ce n'est pas bon parce que les études du professeur Pazou ont démontré que le fleuve Ouémé, qui est le principal fleuve au Bénin et qui prend sa source au nord du Bénin, est pollué par les pesticides utilisés dans la culture du coton. Et ce fleuve-là dessert tout le pays. Alors, quand les pêcheurs ils font leur pêche, ils ramènent le poisson. Elle a fait des tests et elle s'est rendue compte que tous les poissons, les crustacés que nous pêchons au Bénin contiennent des résidus de pesticides. Les recommandations de cette étude sont notamment il vaut mieux frire le poisson. Là, on réduit la présence de ces pesticides de 60% plutôt que de consommer des soupes de poisson frais parce que là, c'est 100%. Si vous ne pouvez pas frire, il faut fumer. Mais là, vous réduisez juste de 40%. L'idéal, c'est de frire avant de manger. Au Bénin, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mon rôle, c'est de les amener à connaître ce genre d'informations parce que la science n'est pas toujours accessible aux populations. Mais ayant de l'expérience dans les médias et sachant aussi ce que c'est que l'environnement par rapport à la science, je suis en mesure de ramener de façon terre à terre toutes ces informations afin que les populations puissent faire leur propre choix.
C'était Inès Kouassi de Terre à Terre Bénin, interrogée ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est aujourd'hui que l'ONG Texan Defense Distributed aurait dû publier légalement en ligne des informations pour un téléchargement gratuit permettant à n'importe qui d'imprimer une arme 3D en plastique. Mais hier, la justice américaine a temporairement suspendu la mise en ligne de plans numériques. Un tribunal fédéral de Seattle a répondu favorablement à la demande des procureurs de 8 États américains et de la capitale fédérale Washington qui sont contre l'accès à ces plans. Les explications d'Arzuma Compaoré.
L'interdiction du juge Robert Lasnik empêche pour l'instant le public d'utiliser une imprimante 3D pour fabriquer leurs propres armes à la maison. La décision bloque l'accord intervenu entre l'administration Trump le mois dernier et cet homme, Cody Wilson, qui en 2013 avait posté des plans en ligne pour un pistolet imprimable.
Pour moi, c'est une preuve d'égalité radicale. À tout ce que les forces de l'ordre et les militaires peuvent avoir, je crois qu'un individu doit pouvoir se le procurer.
Mais tout le monde n'est pas d'accord. Plus tôt cette semaine, 8 États et Washington DC ont déposé une plainte contre l'administration Trump, affirmant que les armes étaient trop dangereuses.
No background check.
Aucune vérification d'antécédent, aucune période d'attente, aucun numéro de série. Certains de ces pistolets imprimés en 3D sont fabriqués avec des matériaux qui ne déclenchent pas les détecteurs de métaux.
C'est bientôt dans une salle de ciné près de chez vous, dans une école de votre quartier, dans un stade de sport ou n'importe quel lieu public que vous les retrouverez. Ces armes fantômes sont la nouvelle vague de violence armée aux États-Unis.
Mardi, même le président Donald Trump, un partisan du droit de porter des armes à feu, a exprimé des réserves au sujet des armes à feu imprimables, disant dans un tweet qu'il avait parlé à la National Rifle Association de la vente d'armes à feu imprimables et que cela n'a pas beaucoup de sens. Mais pour ces derniers, qui constituent le plus grand groupe américain de lobbying en faveur des armes à feu, il faut s'opposer à presque toutes les restrictions sur de telles armes. Pour son vice-président, Wayne Lapierre, les armes imprimables fournissent liberté et innovation. Wilson Cody affirme que la première fois qu'il a publié ses plans, plus d'un million ont été téléchargés avant qu'il ne soit forcé de les retirer. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, encore plus de gens connaissent les armes 3D et ils ont la technologie d'impression pour les fabriquer. Rappelons que la loi fédérale américaine sur les armes à feu indétectables de 1988 interdit la présence dans les lieux publics tels que les aéroports de canons ne contenant pas assez de métaux détectables. La loi n'exige cependant pas que les parties métalliques soient non amovibles, ce qui permet à certains fabricants de pistolets imprimés en plastique 3D de prendre avantage de cette faille en créant des inserts métalliques qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'arme.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, à la console Sidrak Franklin, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.